Mémoire d'un continent.
Elikiam Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
La jeune garde de l'histoire africaine, Nakao Sakiko. La jeune garde, c'est cette génération d'Africains, d'Africaines, mais aussi de non-Africains, de non-Africaines, qui a commencé à refaire l'histoire de l'Afrique, à la recomposer, à l'interroger et à soulever un certain nombre de thèmes, des thématiques nouvelles, mais aussi des thématiques anciennes qu'elle prend en charge donc pour faire ce travail nécessaire de révision, de revalorisation et de remise en situation. Cette jeune garde, on la trouve naturellement sur le continent africain où nous avons commencé à en repérer quelques membres, mais elle est aussi très visible ailleurs. D'abord dans les diasporas africaines, de plus en plus nombreuses, diasporas anciennes, en Amérique du Nord, Amérique du Sud, et diasporas nouvelles qui vient directement du continent africain et qu'on trouve principalement sur le continent européen. Mais les choses sont beaucoup plus compliquées parce que la jeune garde se trouve aussi partout où il y a des études africaines. Anthropologie, sociologie, sciences politiques et de plus en plus histoire. Et notre invité d'aujourd'hui est un représentant, une représentante de cette jeune garde de l'histoire africaine qui n'est pas basée dans le continent africain et qui a commencé sa formation au Japon avant de la terminer en France. Bonjour Nakao Sakiko.
Bonjour.
Vous êtes donc une jeune historienne. Cette jeune garde est en gros toujours dans la trentaine, au début de la trentaine, au milieu de la trentaine, puisqu'il faut le temps non seulement de faire les études de base, mais il faut aussi le temps de commencer des recherches et d'arriver au bout de ces recherches. Alors, c'est une chose qui peut étonner, puisqu'on ne pense pas qu'il y a un africanisme, disons, des spécialistes du continent africain au Japon. Or, il se trouve que vous avez commencé à étudier l'Afrique au Japon. Comment ça donc ?
Alors, donc, moi, j'étais dans un département des études françaises au Japon, à l'Université de Tokyo, où je pouvais choisir mon sujet de recherche, un peu tout ce qui concernait la France. Alors, il se trouve que moi, j'ai été intéressée d'abord par le système colonial français, et c'est par ce biais-là que j'ai découvert un peu le monde francophone, mais qui est en dehors de la France. Et par la suite, petit à petit, je me suis intéressée beaucoup plus par la dynamique africaine elle-même que le système impérial français.
Et donc, en étudiant la francophonie, c'est plutôt l'Afrique, disons, contemporaine, peut-être post-coloniale, comme on dit, qui vous a marqué le plus au départ.
Oui, alors, il y a plusieurs épisodes qui m'ont marqué pour que je commence à m'intéresser à l'Afrique. C'est d'abord, c'était mon passage en France quand j'étais au lycée. J'ai participé à un programme d'échange, donc j'étais venue étudier au lycée en France. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un monde que je ne connaissais pas du tout, puisque j'avais accès à beaucoup plus d'informations en étant en France, tout ce qui concernant l'Afrique et donc notamment l'Afrique francophone. C'était aussi la période où il y avait eu la guerre civile en Côte d'Ivoire. Il y avait des immigrés qui étaient venus en France, et donc j'ai rencontré aussi des personnes donc qui s'étaient échappées de cette catastrophe. Et donc c'était un choc culturel pour moi. Donc c'était mon point de départ où j'ai commencé à connaître un peu le monde auquel je n'avais pas accès tout en restant au Japon. Après, quand je suis rentrée au Japon, donc j'ai toujours gardé en tête cette partie du monde qui a bel et bien existé, mais qui me semblait un peu loin en étant au Japon. Donc je voulais, quand j'ai commencé mes études à l'université, je voulais développer davantage des connaissances sur cette partie du monde.
Mais par exemple, dans les études de relations internationales, ouais, ou d'histoire internationale ou de sociologie politique, est-ce qu'il arrivait que on fasse état des situations, disons, de ces pays neufs sortis de la colonisation ou des pays en développement, comme on dit encore? Est-ce qu'on faisait état de quelques exemples de pays africains dans les cours et séminaires que vous suiviez?
Alors, jusqu'à l'université, très peu. Et à l'université, donc, puisque je m'étais intéressée à cette partie du monde, voilà, j'ai choisi de suivre des cours, par exemple, de l'anthropologie ou des relations internationales sur le développement. qui donc prenait pour l'exemple des pays africains où il y avait des professeurs spécialisés en études africaines, mais notamment en anthropologie ou en études donc du développement.
Oui, c'est toujours ces deux pôles qui intéressent, même c'est le même phénomène en Europe du Nord, c'est soit l'anthropologie culturelle, l'anthropologie sociale, soit alors dans les instituts de sciences politiques ou de relations internationales, les questions de développement. Mais alors, vous arrivez en France quand même, pour les études supérieures, il y a déjà un certain nombre d'années.
Oui, alors je suis arrivée en 2011 pour donc continuer mes études pour remonter un petit peu dans le temps. Quand j'étais au Japon, je devais écrire un mémoire pour mon diplôme de licence. Et je suivais par ailleurs un cours de la langue française à l'Institut français où j'ai rencontré un texte de Léopold César Senghor. Parce que c'était un cours qui présentait un peu plus largement des textes français ou des connaissances sur la francophonie, et donc c'est par ce biais-là que j'ai découvert ce texte de Senghor qui m'a intriguée. Alors c'était certes un Africain qui s'interrogeait sur sa propre identité, sur qui a essayé de promouvoir la valeur de la négritude, mais qui exprimait donc en français et qui mettait aussi en avant cette identité, disons, francophone. Et donc j'étais intriguée par cette ambivalence de son identité, et c'est par là que j'ai commencé à m'intéresser donc à cette partie historique de la colonisation française. Et donc j'ai choisi de d'étudier en détail la pensée politique de Senghor, le Sénégal, pour collecter un peu les informations pour préparer mon mémoire. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser davantage sur la société africaine et sur l'histoire africaine, sans forcément passer par le système colonial français.
Avec cette entrée en matière, donc on voit que chez vous il y a un intérêt pour l'histoire sociale, l'histoire culturelle, l'histoire intellectuelle, et aussi tous ces gens comme Senghor qui sont passés d'Afrique vers l'Europe, de l'Europe où ils rencontrent d'autres gens venus d'autres parties de l'Empire français, donc en l'occurrence la Caraïbe, et le retour en Afrique, et comment cette histoire culturelle peut se greffer sur une autre histoire, une histoire sociale, une histoire politique. Alors, je sais par la suite que vous êtes venu en France, mais là aussi, il y a des choses qui ne paraissent pas claires pour les gens. Comment ça se passe au Japon lorsque une jeune étudiante se propose d'aller faire des études de recherche ailleurs? On sollicite des bourses, il y a des institutions qui entrent en scène.
Alors donc moi j'étais toujours attachée dans ce département des études françaises, et donc il y avait beaucoup, disons, de mes aînés qui étaient partis étudier en France, faire leurs études doctorales en France. Et donc j'ai un peu suivi cette voie, ces exemples pour continuer mes études en France. Alors il y a quelques bourses du gouvernement japonais ou aussi du gouvernement français destiné aux étrangers qui viennent étudier en France. Et donc j'ai sollicité ces différentes bourses pour pouvoir poursuivre mes études en France.
Et là, alors, ce qui vous intéressait, c'était laquelle des parties de l'histoire? Donc on a dit qu'il y a au Japon une tradition anthropologique sur l'Afrique qui est relativement importante, qui donc étudie plutôt l'histoire ancienne. On sait qu'autour des questions du développement africain, le Japon est quand même très impliqué, donc il y a aussi des études du développement. Donc vous allez chercher à vous faire une place entre ces deux extrêmes, donc une histoire plutôt anthropologique et des études de développement très très contemporaines vers l'histoire. Alors ce qui est étonnant, c'est que très très vite vous avez porté votre intérêt sur les circulations intellectuelles, sociales et autres, notamment sur le panafricanisme.
Oui, c'était aussi peut-être mon point d'intérêt était sur l'époque coloniale où justement cette circulation impériale était très importante du point de vue de la formation identitaire de ces Africains, et aussi peut-être parce que j'étais intéressée par le Sénégal, comme j'ai commencé mes études sur le Sénégal d'abord, qui en fait se situe sur le côte ouest de l'Afrique, donnant sur l'Atlantique, où donc la circulation atlantique occupe une place très importante dans la formation culturelle et historique de la société. C'est peut-être pour ça que j'ai senti tout de suite l'importance d'intégrer ces circulations et de situer ces sociétés dans l'ensemble plus global de l'histoire mondiale.
Lorsque j'étais étudiant et que je postulais un de ces emplois que les Blancs nous allouent, j'ai compris qu'il n'y avait pas que les bons emplois qui étaient le fait des Blancs. L'histoire dont on nous parlait était aussi celle des Blancs.
L'analyse logique et une connaissance de plus en plus grande de nos valeurs particulières, de nos moyens potentiels, de nos possibilités réelles, nous laisse cependant exemple de tout complexe et de toute crainte.
The resolutions we have made here are a symbol of our determination to become united and to remain united in an African community.
Le micronationalisme n'a fait qu'éparpiller les énergies créatrices des peuples d'Afrique.
Wa chukura ni kwa rais kwa kuanzisha chama cha ANC ambacho kilimoa mkoloni.
Mémoire d'un continent. Elikia Mbokolo.
Notre invité aujourd'hui est une jeune historienne qui fait partie de cette avant-garde de la recherche et de la production historique et qui vient de soutenir une thèse de doctorat très remarquée sur les questions du panafricanisme. Alors cet intérêt pour le panafricanisme, vous montrez que pour vous, ce ne sont pas tellement les péripéties qui ont conduit, comme l'étudient les politologues, vers la création de l'OUA et vers la création de l'Union africaine, qui sont des institutions tout à fait respectables. Vous cherchez au contraire des mouvements de fond, des phénomènes plus durables, qui remonteraient peut-être à 50, 100, 150, 200 ans auparavant. Donc c'est une démarche vraiment d'historienne.
Une chose qui m'avait frappée quand je suis allée la première fois au Sénégal, c'est que beaucoup de Sénégalais parlaient de l'Afrique pour éventuellement parler du Sénégal. Et beaucoup de Sénégalais s'identifient en tant qu'Africains, ce qui ne se fait pas autant en Asie. Donc cette référence identitaire m'a frappée au départ. Et pour comprendre cette référence identitaire, j'ai commencé à me poser la question pourquoi cette référence est si récurrente dans ces sociétés. Et je me suis dit qu'il fallait creuser sur le passé pour comprendre ce phénomène actuel. Donc c'était la question identitaire qui m'intéressait toujours. Et je me suis dit que donc cette question avait une racine beaucoup plus profonde que ça n'apparaît dans le phénomène actuel.
Et donc à la fois la double référence au territoire dont on est le citoyen et à quelque chose peut-être de plus vague, mais enfin de plus ample, qui est le continent africain. Alors dans votre parcours, ce qui est intéressant aussi, c'est que, étant parti sur l'Afrique francophone, vous découvrez de plus en plus et vous vous intéressez de plus en plus à une autre Afrique, l'Afrique anglophone, et sur les mêmes thèmes.
Alors quand j'ai commencé à étudier le panafricanisme, dans ma thèse, je me suis intéressée aux trois pays, le Sénégal, Ghana et le Burkina Faso. J'ai d'abord étudié le Sénégal et il y avait certes une spécificité sénégalaise, mais après je me suis dit que il fallait aussi élargir cette étude et comprendre un phénomène s'il n'y avait pas une dynamique plus continentale, plus africaine. Et donc c'est pour ça que je me suis intéressée au mouvement panafricain, et quand je me suis intéressée au mouvement panafricain, le Ghana était un pays incontournable, notamment par la figure de Kwame Nkrumah, qui était le leader panafricaniste de l'époque donc où je me suis intéressée.
De l'époque de l'indépendance. Mais en même temps, on va retrouver chez vous le fait que à partir de Nkrumah, et pour ne pas faire une histoire héroïque hein, des personnages contemporains, vous avez montré que on pourrait remonter petit à petit sur peut-être un temps de un siècle, peut-être davantage. Donc là, nous sommes vraiment dans une démarche régressive, qui est une démarche d'historien. On remonte dans le passé pour pouvoir voir comment les choses ont changé ou n'ont pas changé, ou ont dévié ou n'ont pas dévié par rapport à ce passé. Ça vous fait finalement de vous une spécialiste d'une histoire assez longue, parce que cette histoire contemporaine du temps d'aujourd'hui, vous la faites remonter finalement dans une partie un peu lointaine du 19e siècle.
Oui, en fait, à chaque fois que j'étudiais donc un phénomène, je me suis rendu compte qu'il y avait une raison plus profonde, plus intérieure, et donc à chaque fois je devais creuser plus loin pour remonter en remontant dans l'histoire pour comprendre le phénomène. Et je pense qu'il y a aussi une dynamique régionale qui marque cette histoire. Il y a aussi une référence assez souvent à l'entité ouest-africaine par ces militants panafricanistes. Parce que l'Afrique de l'Ouest constituait quelque chose comme une base pour construire une entité qui est prête à être élargie comme une base
de l'intégration de toute l'Afrique, voilà. Peut-être, oui. Mmh. Alors, du coup, je ne sais pas vers où vous irez par la suite, parce que on pourrait dire que ça peut vous conduire vers l'époque la plus récente, avec tous les mécanismes d'intégration au sein de la CEDEAO, par exemple, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, tout comme on pourrait dire aussi que ça peut vous repousser encore un peu plus loin dans le passé, parce que c'est un espace où il y a eu des grands empires, presque continentaux. C'est un espace aussi où les circulations des tas de choses, de marchandises, de religions, de personnes ont été importantes. Tout cela vous excite à continuer sur le travail que vous êtes en train de faire?
Oui, alors il y a donc après cette thèse, il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées et que j'aimerais continuer à creuser. Je pense que j'aimerais quand même rester sur la problématique de l'identité, de la construction identitaire dans cet espace socio-culturel qu'est l'Afrique de l'Ouest. Et une chose qui m'a semblé importante dans ce processus de construction identitaire dans cet espace ouest-africaine, c'est l'histoire des traites et l'esclavage qui ont beaucoup marqué cette région. Donc il y a une partie que je n'ai pas beaucoup creusée dans cette thèse, c'est une identité raciale ou une identité chromatique des Africains, c'est-à-dire de savoir si à partir de quel moment on se réfère systématiquement à une identité de couleur quand on parle d'Africain, alors que le continent africain comprend beaucoup de personnes de couleurs
différentes. Oui.
Et donc, cette association a une racine dans cette histoire des traités esclavages qui a une conséquence très profonde, enfin qui marque encore aujourd'hui cette référence identitaire en Afrique. Et donc j'aimerais bien creuser cette partie tout en référant à cette histoire de traité esclavage, mais qui a une portée jusqu'à aujourd'hui, mais aussi donc à l'époque des indépendances où la construction identitaire s'était faite de manière très consciente par donc en même temps que la construction nationale des États indépendants en Afrique.
Et dans tout cet espace, un dernier mot peut-être sur l'islam comme composante qui structure l'espace de l'Afrique de l'Ouest.
Oui, alors l'islam a été aussi un élément important dans cette construction identitaire. Il est intéressant de voir comment donc certains leaders politiques au moment des indépendances ont utilisé l'islam comme élément africain pour se justifier donc comme élément africain s'opposant par exemple au christianisme qui serait donc élément
colonisateur,
alors que l'islam, la religion musulmane elle-même, n'est pas originaire du continent africain. Et donc cette transformation des références, de valeurs, ce processus-là auquel je me suis intéressée dans cette thèse.
Voilà donc un beau programme pour une jeune chercheuse d'une trentaine d'années qui peut vous occuper pendant quelques dizaines d'années encore. C'est ainsi que la jeune garde se projette vers l'avenir. Nous aurons peut-être l'occasion de rencontrer d'autres figures encore, garçons ou filles. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, réalisation Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat